7h19, bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Marc, bonjour.
Les enjeux internationaux aujourd'hui sur le Nigeria.
Voilà, donc à propos du report des élections générales, puisqu'il y avait des législatives, une présidentielle, des élections de gouverneurs prévues en janvier, repoussées entre avril et mai en raison des difficultés d'organisation. Et le report a été plutôt bien accepté par la classe politique. Alors c'est l'occasion de reparler du Nigeria, angle mort de la presse française, alors que la France commerce d'ailleurs avec lui de façon significative, qu'un Africain sur six est Nigérian, on compte environ 150 millions d'habitants, que l'instabilité politique a été souvent notable, qu'on a craint l'éclatement, les contours de l'identité nigériane restent flous, que le Nigeria avait été traversé par une terrible guerre civile à la fin des années 60, la guerre du Biafra, que le pays applique la charia dans 12 de ses 36 provinces, et puis le facteur ethnique est central dans l'équation de la politique intérieure. Donc le président Goodluck Jonathan a été investi en 2010, donc à la mort de son prédécesseur. L'analyse au micro d'Éric Laurent, l'analyse de Philippe Sébi Lopez, qui est consultant au cabinet conseil Géopolia.
Effectivement, il y a une règle non écrite dans les statuts du PDP, donc le parti au pouvoir depuis le retour de la démocratie en 1999, qui dit que alternativement, ça doit être un sudiste et un nordiste qui doivent présider aux destinées du pays. Bon, Yar'Adua étant un nordiste mais n'ayant pas terminé son mandat, et que Obasanjo ayant été par ailleurs président pendant deux mandats, ce devrait être normalement un nordiste qui devrait être investi par le PDP pour les prochaines élections. D'où le problème.
Et le problème peut, à votre avis, aboutir à une espèce de tension ou de cristallisation entre, de plus en plus marquée entre le nord et le sud ?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il peut être dans l'intérêt de certains, notamment les opposants au PDP, de mettre en avant justement cette absence de rotation à la présidence du pays. Ensuite, il y a un autre problème qui se pose plus en interne au PDP, au niveau des nordistes qui, justement, eux, pensaient pouvoir briller l'investiture du parti, puisque dès lors que vous êtes investi par le PDP, vous avez toutes les chances d'être élu.
Alors, il faut rappeler, effectivement, donc, le pouvoir, toujours semble-t-il, exercé en coulisses par l'ancien président Obasanjo.
Goodluck Jonathan a bénéficié du soutien déclaré d'Obasanjo.
Pourquoi, à votre avis ?
Bah, il se trouve qu'il y a une ancienneté dans leur relation, puisque c'est déjà Obasanjo qui, en 2007, avait fait figurer Goodluck Jonathan comme vice-président sur le ticket d'Umaru Yar'Adua. Donc, il a été adoubé directement par Obasanjo, et donc la relation s'est poursuivie. Maintenant, au niveau de certains soutiens qu'a pris Goodluck Jonathan dans la perspective de la prochaine présidentielle, notamment en pays Yoruba, dans le sud-ouest du pays, il n'aurait pas pris les bons conseillers ou il ne se serait pas entouré des plus proches collaborateurs et soutiens d'Obasanjo. Donc il y aura un petit front entre les deux hommes, mais bon, ça fait partie des péripéties électorales au Nigeria.
À votre avis, comment, je veux dire, cette gigantesque fédération nigériane peut-elle continuer à fonctionner alors qu'on voit très bien que la dimension ethnique, la dimension régionale pèse de manière déterminante sur la vie du pays?
Ça fonctionne sur le principe d'un partage du pouvoir, en sachant qu'au fond, vous avez une caste, une élite dirigeante. Et là, les clivages, si vous voulez, entre nordistes et sudistes comptent moins que l'affichage et leurs autres soutiens dont vous disposez. Ensuite, en ce qui concerne les aspects ethniques, vous avez trois grandes ethnies, comme on dit communément, enfin trois, quatre, voire cinq au maximum, qui sont les ethnies majoritaires et qui imposent leur empreinte sur la gestion du pays depuis l'indépendance.
Il y a un autre problème qui se pose. Évidemment, le Nigeria est un gros producteur de pétrole. Évidemment, on évoque de façon récurrente, et on le voit à travers les troubles qui ont lieu dans la région du Delta, la mauvaise répartition justement des richesses pétrolières.
Alors, mauvaise répartition, c'est peut-être mauvais usage du partage et de la répartition. Parce qu'en fait, un des problèmes du Nigeria, c'est que les ressources pétrolières, en fait, sont réparties sur l'ensemble de la fédération. Chaque État fédéré nigérian bénéficie des retombées de la rente pétrolière. Sachant qu'assez récemment, 13% des recettes pétrolières sont dirigées directement en direction des États producteurs. Donc ça, c'est depuis le retour de la démocratie. Mais il se trouve justement que les États producteurs de pétrole, en gros, il y en a quatre, sur les neuf qui touchent indirectement une partie de la rente pétrolière. Ces États, eux, réclament plus. Donc maintenant, ils réclamaient 25% en 2005. Et maintenant, ils réclament, enfin certains, hein, les plus extrémistes, notamment les militants du MEND, donc qui ont
le
saboté un peu
le mouvement
militant, indépendantiste, pas tout à fait, mais donc ils réclament de toute façon un meilleur partage de la rente. Eux réclament maintenant 50%.
Et à votre avis, ce durcissement dans le Sud, justement, avec comme enjeu la rente pétrolière, est quelque chose qui peut, fragiliser encore davantage le pays, vis-à-vis des investisseurs internationaux notamment?
Disons que les investisseurs ont pris l'habitude d'évoluer dans un environnement peu sécurisé.
Il faut souligner que le Nigeria, en plus, c'est un des pays les plus corrompus de la planète. Hein,
dans le classement de Transparency International, ces dernières années, il a un peu progressé. Mais étrangement, ce n'est pas du tout la perception qu'ont les Nigérians, qui continuent d'être rançonnés, raquettés par la police, par les services administratifs, et puis des offres de corruption, des services publics, de l'électricité et autres. Donc, si vous voulez, la perception qu'en ont les industriels, peut-être à un certain niveau, ou certaines agences internationales, va plutôt dans le bon sens, alors que paradoxalement, pour les Nigérians, pour eux, c'est toujours pareil, voire c'est pire.
Et justement, les tensions dans le Sud autour du partage de la rente pétrolière sont aussi, un mauvais signal envoyé aux investisseurs étrangers?
Pas spécialement. Disons que le problème n'est pas récent. Hein. Si on remonte bien des années en avant, et du temps même des régimes militaires, et même à la création de l'État, l'indépendance du Nigeria, 50% des ressources d'une région, à l'époque de l'indépendance, restaient dans la région. Donc, avec l'émergence du fédéralisme 66, qui a provoqué la guerre du Biafra en partie, le partage s'est progressivement a augmenté au niveau du pouvoir central. Et le pouvoir central a accaparé une part de plus en plus importante de toutes les productions régionales, y compris pour le pétrole, évidemment. Donc, les États producteurs se sont retrouvés jusqu'à 1% seulement de redistribution directe, alors qu'ils étaient partis de 50%. Vous voyez, alors on remonte, maintenant on repart dans l'autre sens, avec ces 13%, et la demande des États du Sud et des États producteurs de pétrole, donc de 25%, voire les militants à 50%.
Philippe Sébille-Lopez, consultant cabinet conseil Géopolia, et puis demain, Marc, nous parlerons de la visite du président chinois en France.
Et bien sûr,
et franceculture.com.
Merci beaucoup, Thierry Garcin. À demain.
À demain.